Culture, grand reportage, t'arraches les gueules.
Pour ma part, j'aurais pas d'enfant. Il y a à la fois des raisons environnementales. Si je me fie aux projections du GIEC et des différents scientifiques, j'ai déjà moi-même pas spécialement envie de vivre dans ce monde. Donc l'idée d'y amener un enfant, c'est problématique.
À l'heure actuelle, dans la société, c'est considéré comme un échec de pas avoir d'enfant. En fait, ça peut être un choix souhaitable.
Faire un enfant, c'est aussi radical que de ne pas en faire. Parce que dans tous les cas, on se ferme la possibilité de l'alternative.
Ils, elles, ont fait leurs calculs et sont assez formels. Si nous étions tous des Américains, il nous faudrait 4 terres pour subvenir à nos besoins chaque année. Si l'humanité entière était française, il lui faudrait 2,5 terres pour survivre. Un bébé européen pèse 58 tonnes de CO2 par an. Renoncer à lui, c'est comme économiser 620 allers-retours Paris-New York en avion. Ne pas avoir d'enfant, donc, est peut-être le geste le plus fort pour réduire notre empreinte carbone. Voilà du moins la conviction de ceux qu'on surnomme désormais les GINKS. L'acronyme nous vient des États-Unis où cette tendance a été médiatisée par un essayiste, ou plutôt une essayiste et journaliste au Huffington Post. Elle se nomme Lisa Haymas et elle s'est toujours intéressée aux questions climatiques. Elle s'est également forgée cette certitude au cours de ses enquêtes. La planète exsangue a besoin que l'on renonce à enfanter. GINKS, donc, comme Green Inclination, No Kids, engagement vert, engagement écologique égale pas d'enfants. Si tu aimes les enfants, ne les mets pas au monde, dit aussi l'un de leurs slogans. Ce serait l'équation à respecter en ces temps modernes pour soulager un peu la planète. Et donc un geste altruiste, éco-responsable, à l'opposé de l'image égoïste que l'on associe souvent aux femmes et aux hommes qui renoncent à fonder une famille. Ils, elles, ne sont pas encore très nombreux, mais ils assument ce choix de société qui va à contre-courant, avec le sentiment d'être dans le vrai, ils l'ont dit à Véronique Rebérotte. GINKS, ne pas faire d'enfant, geste écolo ultime, c'est un reportage signé Véronique Rebérotte et réalisé par Annie Brault. Nous sommes pour commenter et écouter ce reportage, ce grand reportage en compagnie de Laure Nouala, qui est en duplex de France Bleu Auxerre. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez notamment couvert l'environnement pendant longtemps pour le quotidien Libération. Vous êtes aussi essayiste et réalisatrice. Vous avez aussi réalisé le documentaire Après-demain avec Cyril Dion. Vous avez également un site internet qui s'adresse aux enfants déjà mis au monde et qui s'appelle Sorry Children, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et nous sommes ici en studio avec Véronique Rebérotte. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Bon, Véronique, vous avez recueilli plusieurs témoignages pour ce reportage. Est-ce que ça a été compliqué de trouver ces gens ?
Non, pas vraiment. J'ai souvent ces derniers mois d'ailleurs donné la parole à ces jeunes qui manifestent pour sauver le climat, qui sont souvent aussi dans la mouvance de la jeune suédoise Greta Thunberg. Ils combattent le système, convaincus qu'il nous conduit droit dans le mur et épuise la planète. Alors je me suis naturellement tournée vers eux et parfois eux m'ont amenée aussi vers d'autres. Ces jeunes gens militent tous dans des associations citoyennes, Action non-violente, Alternatiba, l'ONG, le mouvement. Ils ne sont vraiment pas rares, hein, celles et ceux qui, dans ces mouvances, ne veulent pas d'enfants. Et puis Laure Nouala, notre invitée, m'a aussi donné un petit coup de main. Contact pris, chacun de celles et ceux que j'ai rencontrés ont eu à cœur aussi de peser leurs mots. La parole n'est mais parfois un peu difficile, car ne pas vouloir d'enfants n'est pas un sujet facile, un sujet que l'on aborde facilement avec sa famille, notamment, ou ses proches. Ils ne souhaitaient pas brusquer qui que ce soit. Ils y ont en tout cas longuement réfléchi à leur projet de non-enfants.
Et pour commencer, vous nous conduisez, Véronique, à La Base, qui est un lieu militant à Paris, où vous avez rencontré Lucie, qui a 20 ans, et Joanne, 29 ans.
Pour ma part, j'aurais pas d'enfant, pour énormément de raisons. Il y a à la fois des raisons environnementales. Si je devais faire simple, je n'ai pas la moindre idée de ce que sera le monde dans 20 ans. Et si je me fie aux projections du GIEC et des différents scientifiques, j'ai déjà moi-même pas spécialement envie de vivre dans ce monde, donc l'idée d'y amener un enfant, c'est problématique. Et la deuxième raison majeure, c'est que je suis profondément anticapitaliste et que j'ai aucune envie de faire naître un esclave de plus qui va être là pour travailler, à amasser de l'argent dont il n'aura pas l'usage en fait. C'est déjà pas simple, je trouve, de vivre. Par contre, si on rajoute en plus ce stress climatique avec des événements qui sont de plus en plus intenses et violents, ça devient de l'adaptation, en fait. C'est clairement de la survie, et c'est surtout que plus ça va, et plus ça va mettre à mal notre système. Enfin, je crois pas à un effondrement du jour au lendemain. Par contre, d'ici 20 ans, je me demande comment ce sera, parce qu'on vit dans une société qui est déjà extrêmement dégradée par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ou 50 ans.
Lucie, vous, qu'est-ce qui fait que vous dites à 20 ans, Lucie, que vous n'aurez pas d'enfant ?
Aussi pour les raisons du coup environnementales. Enfin, moi j'ai 20 ans, donc admettons j'ai un gosse à 30 ans. 30 ans c'est déjà dans 10 ans. Dans 10 ans, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui auront changé. Et donc oui, c'est, si cet enfant grandit, il va avoir 10 ans, donc dans 20 ans. Pour moi dans 20 ans c'est fini quoi. Genre il y aura un point de non-retour et il fera de plus en plus chaud. Enfin, c'est le cercle vicieux du coup, voilà. Et du coup aussi pour... moi ce que je me pose comme question plutôt que... pourquoi ne pas avoir d'enfant ? C'est pourquoi en avoir, au final ? Si c'est pour rentrer dans les cases de la société, je pense que, vu qu'on est là, c'est pas notre volonté principale.
L'injonction pour les femmes, vraiment, d'avoir un enfant,
oui, voilà,
de materner.
À Noël dernier, j'ai eu mon premier... Bon, c'est quand que tu nous fais un enfant ? De ma grand-mère, quoi. Donc, donc voilà. Et peut-être la deuxième raison, c'est de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un. Mais je trouve ça un peu égoïste du coup de vouloir son propre enfant alors qu'il y a plein de personnes dans ce monde qui
vous pensez adopter du coup.
En fait, le truc c'est que je pense que moi je manque d'éducation par rapport au respect de l'environnement, par rapport au respect de la nature, parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous apprend. Hein. C'est-à-dire que je suis obligée d'apprendre moi-même à me réalimenter correctement de manière éco-responsable. Je suis obligée d'apprendre moi-même à réduire la consommation de déchets, et c'est pas des choses qu'on nous apprend, et vu que c'est un peu long comme processus, enfin, je veux bien adopter, mais je veux que cette personne ait, une bonne éducation, et une éducation...
Déjà faire votre éducation.
Voilà, exactement. Il faut refaire la mienne, et après je pourrais peut-être avoir nos autres comment bien faire.
Mais l'argument écologique, il fait mouche, il est entendable à l'extérieur, enfin dans votre entourage ?
Disons que pour certaines personnes, ils comprennent déjà que par mes gestes, c'est-à-dire devenir végétarienne, avoir diminué sa production de déchets, ils comprennent que oui, on se rend compte qu'il y a un truc sur l'écologie. Après, dire que ne pas avoir d'enfants va résoudre le problème, pour eux, c'est pas encore quelque chose de logique. Enfin, il n'y a pas de lien entre avoir un enfant et sauver la planète, en fait.
Quand je vois ce que représente d'un point de vue consommation la naissance d'un enfant, ça demande soit d'être déjà soi-même extrêmement sorti du système. Je pense que c'est pas un problème d'avoir un enfant si on vit plus ou moins en communauté ou même seul, avec une ferme où on pratique un bon élevage, on est capable de faire de la culture, on recycle tout, on n'achète rien d'industriel. Par contre, la question, ce sont les sacrifices et les capacités pour s'occuper d'un enfant dans ces conditions-là. Et là, je pense que malheureusement, notre population n'est absolument pas formée à vivre plus ou moins dans les bois avec une cabane et un gosse. Enfin, l'enfant, il n'est même pas né qu'on entraîne déjà une consommation et une utilisation de systèmes capitalistes avec des échographies, des rendez-vous chez les médecins, des sondes qu'il faut enlever avec du plastique qui les protège. Et donc, en fait, l'enfant, sans même être là, il commence déjà à consommer. Je pense que ça veut tout dire. C'est que, en France, on ne peut pas avoir un enfant sans le scolariser à partir d'un certain âge. Tout est fait pour que, avant même qu'il arrive, il est déjà esclave. Il faut le déclarer avant, il va recevoir son petit numéro. Et c'est terrible, quoi, parce que je ne crois pas que ce soit ça, venir au monde, quoi. Je crois vraiment pas que ce soit ça.
Des jeunes femmes et hommes qui, face à l'absence de politique forte pour sauver le climat, pour sauver la planète, agissent au plus intime d'eux-mêmes en décidant de ne pas faire d'enfants, Edith Vallée en croise de plus en plus ces dernières années. Cette psychologue, auteure de plusieurs ouvrages sur la non-maternité, voit chez celles et ceux qui expliquent ou ajoutent à leur non-désir d'enfant des convictions écologiques un point commun. Ils sont dans l'action et luttent contre le monde qui les entoure, ce que les femmes, face à l'injonction d'être mère, on fait depuis longtemps. Edith Vallée.
Le désir de ne pas avoir d'enfants est fort ancien. Il y a des déesses grecques, la moitié de l'Olympe, qui a en fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Ça veut donc dire que les Grecs, qui avaient tout compris, savaient qu'une des dimensions des femmes est aussi de ne pas avoir d'enfants. La gnose, dans le haut Moyen-Âge, ce courant philosophique qui pense que les sociétés font des choses malsaines, la gnose pensait pour une part que c'était tout aussi bien de ne pas faire d'enfants. Puis il y a eu beaucoup de femmes qui voulaient échapper à la maternité, à la tyrannie, dira Madame de Scudéry, du mariage. et qui est entrée dans le couvent, Madame de Scudéry, elle s'est battue bec et ongles pour son indépendance et elle n'a jamais fait d'enfant. Et puis bien d'autres. Et nous arrivons au XXe siècle avec le féminisme des années 70, où bien sûr il est soudain question d'être maître, maîtresse de sa vie et de son corps. Mon corps m'appartient. Voilà ce qu'ont découvert les années 70, grâce évidemment à la pilule. Et les femmes se sont battues. Elles ont été considérées comme vraiment... presque des monstres au début. Moi, j'ai...
C'est une abomination hein, de ne pas vouloir d'enfants.
Oui, c'est tout à fait une abomination. Et puis, dans les années 80, on a regardé un petit peu autrement ces femmes-là, parce que justement, elles avaient du contrôle. Elles contrôlaient leur vie, et ça, c'était impressionnant pour les années 80, qui aimaient tant le contrôle. C'était l'époque du bodybuilding. C'est rajouté maintenant un argument très, très fort, qui est l'argument écologique. Et des femmes déclarent et des hommes déclarent qu'ils ne veulent pas d'enfants parce que la terre est surpeuplée et ses ressources ne peuvent pas faire face. C'est presque un acte politique. Mais moi, ce que je remarque, c'est que les raisons, les véritables raisons sont beaucoup plus personnelles. Et je sais que les femmes qui font ce choix de ne pas avoir d'enfants, eh bien, ce n'est pas forcément un rejet du tout, mais c'est parce qu'elles sont attirées par une autre forme d'épanouissement que la maternité. Ce sont des personnes en lutte, et donc elles vont naturellement vers des raisons écologiques, parce qu'il faut effectivement se sentir combattant pour chevaucher un tel projet. Attention, les Grecs le savaient aussi, puisque, avec Hésiode, Gaïa se plaint de ce que les humains lui pèsent trop sur le ventre. Il y en a trop, et que fait Zeus ? Eh bien, il envoie la guerre pour faire le vide.
Voilà, donc là j'ai rendez-vous avec Maëlle et Pierre. Ils ont tous les deux 28 ans. Maëlle est orthophoniste et Pierre est chercheur. Et tous deux, ils ont cheminé ensemble, mais tous deux ne veulent pas d'enfants pour des raisons environnementales. Donc ils m'ont donné rendez-vous chez eux. Et là, j'arrive au cinquième étage.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Enchantée.
Maëlle.
Véronique.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre.
Véronique, Pierre. Bonjour, Pierre.
On était au départ plutôt dans l'idée d'avoir des enfants. Et du coup, c'est il y a 2 ans que c'est une réflexion qui a commencé à venir et du coup qui a mûri. Et effectivement, on a beaucoup de chance parce qu'elle a mûri dans la même direction. Et donc ça, c'est quand même essentiel parce que c'est pas un sujet avec lequel on peut faire des compromis dans un choix comme dans l'autre, quoi.
Pierre, pareil, enfin, vous avez la même...
Oui, la même analyse. De fait, on a eu une grosse phase de plongée intense dans beaucoup de publications scientifiques, notamment avec qui a commencé avec la lecture du livre de Pablo Servigne. Et puis,
comment on peut s'effondrer
données, oui. Voilà,
sur la collapsologie.
Exactement. Sur la collapsologie, l'état de l'écologie. On est vraiment passé d'une... Je dirais tous les deux, d'écologistes... un peu normaux, à vraiment une prise de conscience radicale de l'état du monde actuel. Et s'en est ensuite, en fait, la réflexion sur les enfants assez naturellement. Et assez vite, je dirais, on a eu les mêmes réflexions qui sont nourries mutuellement, mais c'était plutôt en phase.
Le fait de ne pas vouloir d'enfant, vous savez quoi, vous vous dites, je veux pas, on va pas mettre un enfant dans ce monde-là, et puis ça va pas bien, et ça ira de moins en moins bien, justement. Et vos arguments, vraiment, c'est quoi?
La question qui a été un peu qui a nourri notre cheminement, c'est est-ce qu'il y a une situation dans laquelle je remettrai en cause le fait d'avoir des enfants? Une situation environnementale, de guerre, de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait mettre en question ça? Et de fait, la situation actuelle, avec la catastrophe écologique qui va arriver de manière quand même certaine dans les 15 ans, 20 ans, 30 ans à venir, rien que c'est une toute petite partie des choses qui vont être très compliquées, rien que le réchauffement climatique qui, de manière certaine, ne va pas s'arrêter à 1,5 degré. Là, c'est sûr, maintenant, de manière physique, c'est au minimum 2 degrés de plus qu'on va avoir en manière globale. Et donc, en fait, ça va être très compliqué, de fait, au niveau des catastrophes naturelles qui vont arriver, au niveau de l'agriculture, qu'il va falloir adapter grandement, avec toutes ces terres qui sont maintenant sous perfusion depuis longtemps de l'agriculture conventionnelle, qui est du coup avec une difficulté de résilience aussi au niveau agricole. Et donc tout ce constat fait que, bah oui, en fait, la situation actuelle rentre dans les situations dans lesquelles on ne ferait pas d'enfants, nous, sachant qu'on a les données. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Du coup, ça serait beaucoup trop angoissant, en fait, de
dire... Vous ressentez de l'angoisse.
Ah ouais, bien sûr. Déjà pour nous, en fait, quelle vie on va avoir dans 30 ans, mais du coup, quelle vie vont avoir les enfants d'aujourd'hui ?
Après, je reviens sur la question comment vous voyez votre vie. Moi, il y a un peu une dichotomie qui se fait, parce qu'on essaye toujours de positiver, d'imaginer comment on peut construire un avenir résilient, comment moi je peux concevoir, où est-ce que je vais vivre, comment je vais vivre. Et là-dedans, dans cette construction de l'imaginaire, on essaye d'être positif et de faire avec le plus d'énergie qu'on a, qui me permet d'avoir un peu une force, un espoir. Mais j'essaye d'être réaliste quand je réfléchis à des choses que je n'ai pas encore faites. Typiquement, mettre un enfant innocent au monde qui va devoir vivre une 80aine d'années dans le monde qu'il fait aujourd'hui. Là, j'ai envie d'être très réaliste. J'ai pas envie de faire de compromis. J'ai pas envie de m'imaginer un imaginaire très positif. J'ai envie d'être vraiment sûr que ça va bien se passer pour lui, parce que de fait, c'est un choix qui a pas été encore fait. Donc, voilà. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre le discours de ceux qui disent mais il faut avoir de l'espoir, donc faisons des enfants. Ou alors je fais des enfants parce que c'est ma manière de garder de l'espoir. Je distingue les deux. Je veux dire pour les personnes qui sont déjà là, oui, il faut avoir de l'espoir, il faut construire. Mais pour les êtres qui n'existent pas déjà, je préfère être réaliste, parce que sachant que la démographie est une partie du problème là-dessus.
Quand vous dites à vos familles, on n'aura pas d'enfants, là, c'est réfléchi, c'est mûri, c'est documenté, ils vous disent quoi, justement ?
Alors moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance dans mon entourage. Vous parlez de mes parents, notamment, et qui étaient conscients de tout ça, qui ont d'ailleurs un peu plongé dans ces réflexions en même temps que nous. Et je ne sais plus lequel de mes parents m'a dit, ah oui, mais... Bon, on s'en doutait un peu, et on vous comprend, quoi.
Ouais, ouais. On me pose beaucoup la question de... Alors, et toi ? Oh, alors, et c'est pour quand ? De fait, maintenant, je réponds, bah non, en fait, nous, on va faire le choix inverse, ou nous, on passe notre tour, ou nous...
Différentes formules, justement.
Bah, ça dépend des gens. Et après, ça dépend aussi de la situation, si c'est une amie qui est enceinte, si c'est quelqu'un qui vient d'avoir... On n'aura pas le même discours non plus, parce qu'il y a... C'est un discours qui est somme toute assez violent. Du coup, c'est compliqué parce que...
Violent, pourquoi ?
Violent parce qu'aux gens qui ont déjà des enfants ou qui prévoient d'en avoir, eh ben, on leur dit que pour nous, la vie dans peu de temps, finalement, à une courte échelle, va être très compliquée sûrement. Mais pour rebondir sur tes parents, il y avait cette notion où très vite, ils ont dit bah, il faut trouver une autre sorte de fécondité, un autre imaginaire. Et en fait, c'est ça qui est hyper constructif, parce que à l'heure actuelle, dans la société, c'est considéré comme un échec de ne pas avoir d'enfant, si, que ce soit par infertilité, par le fait de la vie ne s'est pas prêtée à avoir un enfant, mais bon, quand même, oh là là, quel dommage, oh là là, les pauvres, oh là là. En fait, ça peut être un choix souhaitable. Il peut y avoir transmission, il peut y avoir du coup disponibilité plus grande aux gens autour. Parce que de fait, d'avoir des enfants, une famille, ça demande beaucoup de temps et c'est normal. Et donc du coup, bah, ça fait faire beaucoup de compromis sur plein de choses. Et bah, du coup, dans les engagements militants, etc. Donc faire, je sais pas, des réunions, des machins, des choses comme ça. Du coup, ça permet de continuer ça, de toujours avoir l'énergie pour ça. Bon, faire des grosses maths, mais ça c'est plus un détail.
Maëlle, Pierre, Lucie, Johan, tous disent agir par empathie pour ceux qui sont déjà là, peuplent ou surpeuplent déjà la Terre, et non par pur égoïsme, comme on peut leur en faire le reproche. Pour Charlotte Debest, sociologue, co-auteure d'une étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui montre qu'une vie sans enfant demeure un choix à contre-courant, ne pas faire d'enfant, pour des raisons environnementales, serait plus acceptable pour la société. Leur cause deviendrait noble. Mais sait-on d'ailleurs combien cela concerne de personnes, Charlotte Debest ?
Pour l'instant, il n'y a pas d'études vraiment qui montrent. La proportion de personnes volontairement sans enfants reste quand même stable depuis une trentaine d'années. Donc déjà, ça représente très peu de personnes. Finalement, c'est à peu près 5% des personnes qui peuvent être considérées comme ne voulant pas d'enfants, donc des hommes et des femmes. Et finalement, les raisons de ce choix sont assez peu questionnées dans les grandes enquêtes quantitatives et même pour l'instant sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est que c'est aussi dans l'air du temps les raisons écologiques. Et donc, en effet, on entend de plus en plus de témoignages, en tout cas, qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire des personnes qui feraient le choix de ne pas vouloir d'enfants pour des raisons écologiques. Mais il me semble que c'est pas vraiment mesuré à l'heure actuelle.
Est-ce que c'est mieux accepté, parce que quand on discute avec ces jeunes, ces hommes et ces femmes qui ne veulent pas d'enfants, ils ont moins de réactions un peu négatives, ou en tout cas d'incompréhension de la part de leurs proches, de leur famille ou de leurs amis quand ils disent « on veut pas d'enfants pour des raisons environnementales ». C'est plus facile à faire accepter, entre guillemets ?
C'est peut-être plus facile à faire accepter dans le sens où, d'une certaine manière, c'est une raison altruiste. Que de ne pas vouloir d'enfants. Et en tout cas, les travaux que j'ai menés sur les personnes volontairement sans enfants, ce qu'on leur renvoie, c'est de ne pas vouloir d'enfants, c'est d'être égoïste. Donc là, c'est vrai que de mobiliser l'argument pour sauver la planète, d'une certaine manière, ça rend en fait le choix de ne pas vouloir d'enfants altruiste et positif. Après, à voir si c'est un argument qui peut tenir sur toute une vie, le fait de ne pas vouloir d'enfants pour sauver la planète. Voilà, parce qu'on sait aussi que c'est pas tant un problème de surpopulation que c'est bien un problème de surconsommation, potentiellement pour les problèmes écologiques. Donc on pourrait imaginer aussi que dans une société où on en arriverait à consommer autrement, cet argument pour sauver la planète, je ne fais pas d'enfants, ne tiendrait plus. Déjà, tout le monde peut toujours changer d'avis, quelle que soit la raison mobilisée. Oui, on pourrait soit imaginer que finalement, ils estiment que ça va mieux quand ils font le pour et le contre, soit imaginer que, c'est un temps peut-être militant autour de entre 20 et 35 ans où on s'engage aussi pour des raisons écologiques et donc ça peut faire partie du lot que de dire de ne pas vouloir d'enfant. Voilà, après, ça serait vraiment d'aller questionner vraiment ce choix de ne pas vouloir d'enfant et si la raison écologique est là, aussi la questionner, etc. Mais aussi peut-être les autres raisons pour voir jusqu'où cette personne est entre guillemets prête, jusqu'où ces personnes sont prêtes à faire leur vie sans enfant, parce que malgré tout, même si c'est peut-être un petit peu mieux vu, puisque ça serait des raisons positives et altruistes, ça reste quand même difficile de dire qu'on ne souhaite pas d'enfant et d'une certaine manière de le tenir sur toute une vie. C'est-à-dire qu'après, il y a quand même une pression de l'entourage, que ce soit ses propres parents, ses amis qui vont rentrer en parentalité. Il y a quand même toute une pression sociale autour qui se met en place, qu'elle mobilise ou non des raisons écologiques.
Voilà, donc là j'arrive, j'ai pris le TGV pour Grenoble et j'ai rendez-vous avec Sereb, il est devant moi là avec son vélo, on vient de se voir sur le campus en fait, il a 32 ans. Technicien de salle, vous êtes technicien de salle, hein, c'est bien ça ? De spectacle. Circuler à vélo, c'est une des façons pour Sereb de limiter sa propre empreinte carbone sur une Terre transformée en enfer si la température de la planète venait à augmenter de 7 degrés d'ici la fin du siècle. Dernière alerte scientifique l'an passé qui a conforté Sereb, s'il le fallait, dans son choix de ne jamais avoir d'enfant. Il y a 4 ans, à 28 ans, Sereb a pris une décision radicale, la vasectomie.
Je ne veux pas avoir d'enfant. J'ai toujours été relativement sûr de ce truc-là, dès mon adolescence. Faire un enfant, c'est aussi radical que de ne pas en faire. Parce que dans tous les cas, on se ferme la possibilité de l'alternative. Et quand je dis ne pas en faire, c'est ne pas en faire en étant vraiment sûr de ne plus jamais pouvoir en faire, c'est-à-dire en se stérilisant comme... Vasectomie en 2016, c'était ce qui me semblait être la contraception la plus rationnelle dans mon couple vis-à-vis de ma trajectoire personnelle. Et du coup, la stérilisation, c'est qu'une contraception que j'ai choisie et qui correspondait le mieux à ma vie sexuelle et à ma vie sentimentale.
Pour vous, ce choix de non-enfant, de ne pas avoir d'enfant, c'est quoi ? C'est le plus éco-responsable des gestes à l'échelle individuelle ? Enfin, c'est le geste ultime ?
Non, c'est pas le geste ultime. Techniquement, le geste ultime, c'est le suicide. Le plus radical étant de se suicider, parce que là, on élimine directement une unité d'impact. Mais il y a tout un tas d'autres choix qui vont du boycott de l'avion à essayer de décarboner sa vie, ou décarboner l'économie, ou de devenir végétarien. Tout un tas de choses comme ça, qui deviennent de plus en plus consensuelles, pour le coup, ces trucs-là.
Cette vie sans enfant, du coup, elle est militante, elle est... Parce qu'on parle des fois d'égoïsme quand on n'a pas d'enfant. Vous dites, c'est pas du tout de l'égoïsme, ou c'en est un peu ?
J'ai évacué la question de l'égoïsme. C'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent et qui a souvent tendance à faire hurler les child-free. Mais quelqu'un qui fait un enfant, il a certes l'impression d'accomplir quelque chose pour l'humanité, potentiellement il le fait un peu dans une certaine mesure, et potentiellement il le fait vraiment parce qu'il va peut-être, je sais pas moi, procréer le futur prix Nobel, j'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a plus de probabilité de produire quelqu'un de tout à fait normal et tout à fait banal et tout à fait lambda, et donc potentiellement un galérien en plus dans un monde en autodestruction, merci, au revoir. Et ainsi un consommateur qui va impacter son milieu, et donc toute cette part d'impact va nécessairement être au sacrifice de ceux qui étaient déjà là avant et qui existent déjà, et puis du reste des écosystèmes. Je préfère me battre pour que ceux qui existent déjà essayent et vivent un petit peu mieux. Ça me paraît plus important.
Par rapport à votre parcours quand même qui vous conduit vers la stérilisation, c'est compliqué de il faut trouver les bonnes personnes, on vous pose beaucoup de questions j'imagine, parce que voilà, vous prenez encore une fois une décision radicale de vous faire opérer, ectomiser, c'est compliqué.
La stérilisation volontaire, c'est quelque chose qui est relativement simple en France. C'est que avant c'était complètement illégal, ça date de Napoléon, les gens qui se blessaient volontairement pour pas participer à l'effort de guerre. Depuis 2001, c'est légal. Depuis 2001, toute personne a un certain nombre de conditions, donc la majorité, 4 mois de réflexion entre 2 consultations chez le spécialiste, et l'autonomie de choix, enfin un certain nombre de règles qui sont globalement des règles de bon sens. À l'heure actuelle, toute personne majeure a le droit de demander une stérilisation. Par contre, il faut bien qu'elle comprenne que c'est des opérations à considérer comme irréversibles, que ce soit la vasectomie pour les mâles ou la ligature des trompes pour les femmes.
Vasectomie, ça consiste en quoi, précisément ?
C'est une opération mécanique extrêmement simple. Mmh. C'est 2 petites incisions sur les côtés des bourses, on coupe les canaux, et c'est une contraception mécanique qui empêche simplement les spermatozoïdes de rejoindre le reste du sperme. On produit du sperme qui est infécond, mais ça change rien du tout en termes de plaisir, de texture, d'odeur, de goût, si j'en crois ma compagne. Ça change rien du tout en termes d'activité sexuelle en soi. C'est juste qu'on va devenir littéralement stérile, et c'était l'objectif de la stérilisation volontaire.
Donc faut bien on vous demande d'avoir bien réfléchi.
Oui, et c'est la raison pour laquelle dans la loi, il y a ces 4 mois de réflexion. Mais ces 4 mois de réflexion, c'est le minimum entre 2 consultations. La plupart des gens, quand ils arrivent à une consultation et qu'ils demandent une stérilisation, ils n'y ont pas réfléchi 4 mois, ils y ont réfléchi potentiellement pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, ce genre de choses. C'était mon cas, puisque moi c'était une intuition que j'avais depuis la fin de l'adolescence. Cette intuition s'est transformée en connaissance et en réflexion sur le monde au fur et à mesure. Et quand j'en ai eu besoin par rapport à ma propre vie sexuelle, parce que j'étais dans un couple stable, exclusif, qui était conçu pour durer, dans un couple où je savais qu'on n'aurait jamais d'enfant, c'est devenu une réponse de contraception la plus rationnelle dans notre vie à deux. Le problème, c'est que c'est le droit du patient. Mais il y a aussi un autre droit qui est en face, qui est le droit de clause de conscience du praticien. Et du coup, n'importe quel adulte a le droit de demander une stérilisation volontaire, n'importe quel praticien a le droit de dire non, je le ferai pas, parce que j'ai pas envie. En soi, c'est une bonne chose, hein, forcer un praticien à faire un geste médical contre son éthique et contre sa volonté. C'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il va bosser mal, et j'ai pas envie de tomber sur un chirurgien qui bosse mal. Du coup, en fait, la difficulté, c'est de trouver un praticien suffisamment progressiste pour qu'il accepte les conditions de la loi et qu'il impose pas ses propres conditions extra-légales que lui dicte sa morale. Les conditions extra-légales qui peuvent être un nombre d'enfants minimum, un âge minimum, tout un tas de visites chez le psy, puis il y avoir quoi d'autre, des visites au sécos pour l'autoconservation de gamètes. Le praticien, il peut demander n'importe quoi, hein, puisque c'est sa clause de conscience. Sa clause de conscience lui permet de rajouter toutes les conditions qu'il veut et qui sont en dehors de la loi. Il y a des annuaires qui s'échangent en ligne. Un annuaire de praticiens réputés progressistes qui n'imposent pas des conditions extra-légales extravagantes.
Votre chirurgien, il vous a quand même convaincu qu'il fallait conserver votre sperme quelque part, au cas où vous avez donc, vous, du sperme congelé, au cas où vous changeriez d'avis.
En fait, j'estime que mon risque de regret, mon risque de changer d'avis est à peu près égal à 0. Malgré tout, mon praticien m'a imposé une visite, enfin m'a proposé une visite au Sécos du coin, donc le centre d'autoconservation de gamètes, pour faire une autoconservation. Et lui, c'était sa condition pour me permettre d'accéder à l'opération. Donc c'était sa condition extra-légale. Et cette condition-là me paraissait comme étant un compromis acceptable, sachant que, contrairement à la vasectomie, l'opération au Sécos du coin, c'est un truc qui est complètement réversible. C'est un abonnement qu'on prend par an, ça coûte 100 € à la prise, et puis ensuite ça coûte 50 € par an. Si un jour je suis à 50 balles près, oui, je la rappelle, et je dis non, c'est mort. Je ne peux pas rejeter complètement l'hypothèse que je regretterai dans 25 ans, pour X ou Y raison, c'est pas grave, je vivrai avec mes regrets, comme un adulte responsable et comme tout le monde.
Bonjour, des études le prouvent, nous sommes déjà plus de 7 milliards de copains à la surface de la Terre, ce qui est drôlement pratique pour faire signer des pétitions, mais c'est un petit peu plus ennuyeux pour l'avenir de l'humanité. Contrairement à la table à rallonge de ma grand-mère, notre Terre n'est pas extensible, on ne peut pas non plus lui mettre de talonnettes. Pourtant, le problème, c'est que dès qu'on mentionne la nécessité de stabiliser la population mondiale, on se fait immédiatement traiter de nazi. Préconiser des mesures de planning familial pour stabiliser la population, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'eugénisme. Et puis quand on aime vraiment les enfants, vu la boucherie qui se prépare, on n'en fait pas. N'oubliez pas, plus on est de fous, plus on périt. Merci.
Sereb, comme bien d'autres, a été biberonné aux travaux des collapsologues. Un courant de pensée qui annonce un effondrement planétaire et systémique imminent. L'un des collapsologues français, Yves Cochet, se prépare à cet effondrement dans sa ferme en Bretagne. L'ex-ministre de l'Environnement dirige le laboratoire Momentum, consacré aux transitions nécessaires pour amortir le choc social de l'anthropocène. Celui qui a parlé le premier de néo-malthusianisme modéré estime qu'aucun geste n'est plus efficace que d'avoir un enfant. En moins, surtout dans nos riches sociétés. Yves Cochet.
Alors, il ne faut pas compter uniquement le nombre. 68 millions d'habitants en France ou 7,7 milliards sur la planète. Il faut compter le nombre multiplié par ce qu'on appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est en gros l'impact environnemental que nos activités, individuelles mais surtout collectives dans un territoire comme par exemple la France, peut avoir sur les écosystèmes, sur la nature. Bon, alors si on multiplie l'empreinte écologique, d'ailleurs dont maintenant on fait quelques publicités lorsqu'on appelle le jour du dépassement arrive sur Terre. Le jour du dépassement, c'est le jour où on vit sur nos stocks et non plus sur le renouvellement de la nature, soit pour nous fournir des ressources en amont, soit au contraire pour gérer nos déchets en aval. Alors maintenant, ce jour du dépassement, il arrive quasiment fin juillet, alors qu'en 1980, c'était le 31 décembre, ce qui était normal, c'est-à-dire on vivait avec une planète. Maintenant, il faut beaucoup plus qu'une planète pour vivre, donc on vit sur des stocks, on déstocke. Comme disait Chirac déjà en 2002 à Johannesburg, pour vivre comme les Français, il faudrait deux planètes, disait-il à l'époque, c'était en 2002, maintenant il en faudrait trois.
Donc c'est pas supportable.
Alors, c'est pas supportable. Il faut essayer d'être plus sobre, d'être plus raisonnable dans notre surconsommation. Je parle notamment, évidemment, des pays de l'OCDE ou des Européens, des Américains, des Australiens. Notre empreinte écologique est considérable. Alors, évidemment, par ailleurs, il y a 5 milliards de personnes qui vivent pas du tout comme nous. Pas du tout, du tout. Ni en moyens de transport, ni en nourriture, ni en aménité matérielle, que sais-je. Contrairement à ce que croit l'extrême droite, ce n'est pas le ventre fécond, n'est-ce pas, des femmes africaines qui font beaucoup d'enfants, puisque l'Afrique est quasiment vide par rapport à son territoire, a une empreinte écologique sur le mode de vie moyen des Africains actuels est 10 fois moindre que celui des Européens. Donc, en gros, un nouvel enfant français, c'est 14 fois un nouveau Camerounais.
Votre solution, c'est quoi? C'est pas de plus faire d'enfants du tout? Vous dites, il faut en tout cas ne pas faire d'enfants supplémentaires. Vous allez nous expliquer ça. C'est le premier geste écologique. En faire moins.
Oui. Le gros éco-geste qui économise vraiment beaucoup de matière et d'énergie, c'est ne pas faire un enfant supplémentaire. Alors, si on n'en a pas, on n'en fait pas. Si on en a un, ben on n'en fait pas deux. Si on en a deux, on n'en fait pas trois. Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose comme faisait curieusement la République islamique iranienne dans les années 80. Il disait en anglais « One is good, two is enough ». Un, c'est bien, deux, c'est suffisant, et certainement pas trois. Donc, une des propositions un peu scandaleuses que je fais, qui n'est jamais reprise, bien entendu, c'est d'inverser l'échelle des allocations familiales. Actuellement, on a un enfant, on n'a pas d'alloc, ce qui est quand même dommage, parce que c'est là que ça coûte. Et c'est à partir de deux, puis trois et puis quatre, c'est même pas proportionnel, c'est vraiment beaucoup plus. Moi, je pense qu'il faudrait inverser. À un enfant, vous avez 100 euros par mois. Et puis au deuxième, vous n'avez plus que 50 pour les deux. Et puis au troisième, vous n'avez plus d'alloc.
C'est
hommes ou femmes qui font le choix de pas du tout avoir d'enfants. Vous le comprenez, vous dites, bah, c'est encore plus radical que moi. C'est, comment vous jugez c'est...
On rencontre des couples, hein, peut-être en avez-vous rencontré, qui disent, c'est nous qui avons le choix, mais individuellement. Et les couples disent en général, eh ben, c'est nous qui avons notre politique, notre propre politique domestique, démographique. Je dis non, c'est un problème politique. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une loi sur la démographie européenne, une directive, ou bien une directive, une loi française, et c'est un problème politique général. C'est pas simplement les couples font ce qu'ils veulent, s'ils en veulent 10, ils en ont 10, s'ils en veulent 0, ils en ont 0. C'est un problème politique parce que maintenant, le fait d'avoir un enfant n'est pas innocent par rapport au bonheur des autres. Notamment les autres français ou européens, mais même les autres dans le monde en général. C'est un problème mondial en réalité.
Pour le démographe Jacques Véron, même si des études ont montré que les problèmes environnementaux étaient plus dus à la surconsommation des pays riches qu'à l'explosion démographique, la taille des populations compte tout de même si des politiques de décroissance démographique doivent être mises en place. Jacques Véron.
Si je suis indien, oui. Si je suis français, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Simplement du fait de la taille des populations en jeu. L'Inde produit en 3 ans à peu près la population de la France, en termes de naissance. Donc, si l'Inde limite réellement sa fécondité, si les Indiennes n'ont qu'un enfant par femme, ou pas du tout, qu'un certain nombre s'abstiennent, ça aura effectivement un effet majeur sur la population mondiale. L'Europe est minoritaire, la France représente une petite partie de l'Europe, enfin importante telle que l'Europe, mais... pas déterminante, donc ça n'aura pas un effet environnemental fort. Mais après, c'est une position qui est respectable. Moi, ma position, c'est de dire on ne peut pas mettre tout sur le compte de la population, et il ne suffit pas de dire on va vers une décroissance démographique pour que tous les problèmes soient réglés. C'est ça ma position de principe. Donc on peut très bien, après, si l'ensemble de la société souhaite une décroissance, oui, pourquoi pas. Mais si on se met dans cette logique-là, il faut bien avoir conscience qu'il y aura un rapport entre les générations, des relations entre les générations qu'il faudra gérer compte tenu du potentiel de vieillissement que ça déclenchera.
Les retraites, là, par exemple.
Accessoirement, mais plus généralement que les retraites, les rapports par rapport au marché du travail, évidemment, ça a une incidence directe sur les retraites. Mais disons ce que moi j'appelle le partage de l'activité, qui est en fait pas uniquement l'activité économique, qui est le fait qu'une société fonctionne, qu'il y a des actifs, il y a des non-actifs, il y a des retraités qui restent actifs, qui exercent un certain nombre de tâches. Qui peuvent ne pas être rémunérés. Et là, il y a des enjeux extrêmement forts. Et on a un exemple aujourd'hui, qui est l'exemple du Japon, qui a commencé déjà à décliner et qui a de ce fait déclenché un potentiel de vieillissement considérable avec des perspectives de 40% de personnes de plus de 65 ans à terme. Et on voit bien que dans une société qui était très fondée sur la famille, avec des relations entre les des coexistences auparavant de 3 générations, on rentre dans des modèles complètement différents. Et c'est un avenir qu'il faut inventer. On ne sait pas, je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais il faut l'inventer. Et donc quand on se met dans la perspective de décroissance, il faut bien avoir à l'esprit le fait que cette décroissance implique mécaniquement un vieillissement considérable de la population.
Donc ces jeunes particulièrement aujourd'hui qui ont entendu l'alerte scientifique, hein, oui, et qui disent on veut pas d'enfants, enfin vraiment c'est pas supportable encore une fois.
Je pense que c'est respectable, je pense que c'est une alerte parce que finalement je pense qu'ils ont le sentiment qu'on n'aborde pas les questions environnementales avec suffisamment de sérieux et d'engagement. Donc je pense que c'est quand même des actions de sensibilisation. Après, est-ce que ça a une solution? Est-ce qu'ils sont conscients exactement de tous les mécanismes? Non. Mais il y a des gens qui font avancer les choses, pas parce qu'ils connaissent les mêmes mécanismes, mais parce qu'ils mettent une dynamique et qu'ils sensibilisent. Donc, globalement, je trouve que c'est positif.
Thank you.
Greenpeace, ne pas faire d'enfants, geste écolo ultime. C'était un grand reportage signé Véronique Rebérotte, réalisé par Annie Brou.
Grand reportage, Tara Schlegel.
Vous écoutez France Culture et nous sommes toujours en compagnie de la journaliste essayiste Laure Nouala qui est en duplex avec nous. Je disais tout à l'heure que vous aviez été journaliste environnement à Libération. Vous avez aussi co-signé le documentaire Après-demain avec Cyril Dion. Vous êtes écrivain et vous êtes aussi sur internet avec des sketchs Laure Nouala où vous mettez en scène un personnage qui se nomme Bridget Kyoto. On a entendu tout à l'heure un extrait où vous parliez de la table à rallonge de votre grand-mère avec laquelle il faut pas comparer la Terre. On a envie d'abord de vous entendre sur, sur votre choix finalement et votre vie. Vous aussi, vous avez décidé de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que c'est une conviction que vous avez forgée au fil des années en raison notamment de vos enquêtes sur l'écologie ?
Ben oui, je suis un petit peu comme la journaliste du Washington Post que vous avez citée en tout début d'émission. L'état de la planète, mais c'est pas tant l'état de la planète si vous voulez, c'est plutôt la certitude que les conditions de vie stables qu'on a sur Terre depuis au moins 10 000 ans, cette conviction qu'elles vont changer et que ça va être très compliqué pour les sociétés humaines d'absorber les chocs, c'est plutôt ça qui a emporté le morceau. Après, j'aimerais quand même préciser, on parle de décision, mais c'est pas une décision, tiens, je vais prendre le train de 10h43 ou tiens, je vais manger une banane au petit déjeuner. C'est une décision qui est évidemment tricotée dans le plus intime de ce qu'on a les uns les autres en fonction de nos parcours. Pour moi, ça a été plus un argument qui emportait le morceau qu'une décision, je n'en veux pas, à cause des conditions de vie sur Terre qui vont se modifier. Parce que de toute façon, même les gens qui font des enfants se posent énormément de questions. Est-ce que c'est la bonne période ? Est-ce que c'est le bon mec ? Est-ce que j'ai les moyens d'en faire trois ? Est-ce que, etc., etc. Bon, je parle pas de ceux qui ne se posent pas de questions. Mais on se pose quand même des questions même quand on en fait. Donc évidemment, ceux qui n'en font pas se sont aussi posé des questions. Et ils aboutissent à une autre conclusion. C'est tout.
J'ai lu aussi que vous disiez que vous politisez votre ventre vide. Je pense que la phrase de vous, donc ça veut dire que justement c'est pas une décision uniquement intime et personnelle non plus.
Eh ben, l'intime est politique aussi hein, de toute façon, mais oui alors elle est devenue, j'appelle ça politiser mon ventre vide parce qu'en fait c'est aussi mettre ce sujet sur la table comme vous le faites, comme de plus en plus d'émissions le font, comme de plus en plus de médias en parlent, comme de plus en plus de jeunes en parlent. Il y a une génération qui pousse là et qui en parle plus ouvertement, on va dire, plus calmement. Et donc oui, c'est remettre de la politique dans l'histoire, parce que quand on vous parle de réduire par exemple les allocations familiales, quand on nous parle de l'Iran qui a eu une politique effectivement de décroissance démographique absolument extraordinaire dans l'histoire de tous les pays et de toute l'histoire. Parce qu'en fait, en 1980, les Iraniens avaient 6 enfants par femme et en 2000, elles en avaient plus que 2 à peine. Et ça, sans coercition, sans méthode à la chinoise, ça nous raconte de la politique. Oui, donc il y a de la politique là-dedans. Alors mon ventre n'est rien par rapport à la politique, évidemment, mais de pouvoir en parler, je trouve que c'est déjà ultra intéressant.
Une question de Véronique Rebérotte.
Laure Nouala, vous avez maintenant 45 ans, on peut dire que vous avez tenu hein, votre engagement de ne pas avoir d'enfant. Ça a été compliqué, vous avez dû en entendre des réflexions, tu vas le regretter, parce que alors, vous êtes là notre...
Écoutez, c'est marrant parce que j'ai réalisé un film il y a 2 ans sur la PMA, à la faveur d'une enquête donc sur la PMA, donc sur l'ultra désir d'enfant, j'ai envie de dire. J'ai questionné mon non-désir ou l'absence d'enfant dans ma vie. Parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte, et donc j'ai fait un bouquin qui s'appelle « Lettre ouverte à celles qui n'ont pas encore d'enfant », mais ça parle de PMA, et donc je suis allée quand même questionner mon désir.
Et PMA, est-ce qu'il faut y aller, vous dites, est-ce qu'il faut
y aller? PMA, GPA, est-ce qu'il faut vraiment y aller? Pour d'autres raisons qui sont plus environnementales, moi je me pose la question. Et à la faveur de cette enquête, je vous dis, je suis allée questionner mon non-désir. Et en fait, finalement, j'ai pas eu d'enfant, mais c'est aussi la vie qui fait que j'ai pas eu d'enfant. J'ai pas eu d'enfant, mais j'aurais pu en avoir 3 ou 4 ou 5. Je sais plus combien de fois j'en ai perdu ou éliminé. Donc du coup, oui, le parcours a été celui sinueux d'une femme qui se pose énormément de questions, qui n'a pas forcément les bons partenaires, qui n'est peut-être pas tombée enceinte au bon âge, au bon moment. Enfin voilà, c'est tellement multifactoriel. Et effectivement, là aujourd'hui, je suis hyper soulagée, non pas pour moi, mais pour cet enfant que j'aime tellement que je ne l'ai pas fait.
Pour prolonger un peu la question de Véronique Rebérotte, est-ce que vous diriez que c'est un choix vraiment altruiste et responsable et qu'il n'a vraiment rien d'égoïste ?
De pas faire d'enfants, je pense que c'est les deux, évidemment. Il y a évidemment de l'altruisme, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un altruisme intergénérationnel, c'est-à-dire l'altruisme qui considère qu'on va s'occuper du futur d'un enfant qu'on montrait pas au monde, et ce futur se situe à peu près en 2050, dont on ne sait à peu près rien, puisqu'on est dans une énorme incertitude, à la fois en termes d'intensité de ce qui va arriver et de quand ça va arriver et de comment ça va arriver. Donc c'est un altruisme super intéressant, un altruisme qui saute les générations, qui saute l'espace-temps, c'est vachement sympa. Mais c'est aussi un égoïsme, parce qu'effectivement, ne pas avoir d'enfants, c'est aussi reconquérir des espaces de liberté absolument inouïs, et notamment pour les femmes, parce que la charge mentale, on le sait, elle est quand même majoritairement sur les femmes, d'avoir des enfants. Et donc du coup, oui, c'est aussi un acte, plus que de l'égoïsme, je dirais, c'est une réappropriation de sa propre liberté, de savoir dire non à quelque chose. J'ai vachement entendu ça, et je l'entends toujours d'ailleurs, cette espèce de pression sociale, à un moment donné, c'est d'abord la grand-mère à 20 ans pour la jeune fille qu'on a entendue tout à l'heure.
D'injonction.
Ça peut être la maman, l'injonction, voilà, procréatrice, les amis qui en ont, etc. Bon, est-ce que ça, c'est véritablement une pression? Ou est-ce que c'est, viens faire comme moi, sinon ta liberté va me déranger? J'ai l'impression que c'est plutôt une espèce de, inconsciemment peut-être, de venir nous dire, mais faites comme nous, parce que nous, bon, on en chie pas mal entre les varicelles, les rougeoles, les études à payer. Et vous, là, vous nous narguez votre liberté, et qu'est-ce que vous en faites? Et en plus, derrière, on a l'injonction à devoir utiliser cette liberté pour en faire quelque chose. J'ai entendu tout à l'heure un des témoins qui disait qu'on allait vers d'autres fertilités, d'autres fécondités. C'est exactement ça. Moi, j'ai plein d'enfants. Je fais des livres, des films. J'ai aussi beaucoup d'enfants autour de moi. En fait, on est entouré d'enfants. Voilà, je trouve que c'est extraordinaire. On a aussi une fonction sociale, si vous voulez.
Alors, vous faites quand même le constat, Laure Noyelat, qu'un enfant, dès la naissance, c'est un poids écologique pour la planète impossible. Vous prenez l'exemple des couches culottes, c'est... En 6 mois, ça remplit, c'est ça, des piscines et des piscines olympiques. Des terrains de foot, parce que c'est souvent c'est l'un ou l'autre.
Là, encore une fois, vous parlez de l'enfant européen. Effectivement, on dit que le troisième enfant, c'est l'enfant du changement d'échelle. Mais le premier enfant, de toute façon, c'est l'enfant qui va être carboné à vie. Vous alourdissez votre bilan carbone à vie, il va consommer. Même si vous vivez dans une yourte au fin fond de la Drôme, vous êtes plus riche et plus consommateur et plus émetteur qu'un petit burkinabé, etc. Et puis, on parle tout le temps de l'Afrique comme étant un endroit où, effectivement, ils sont nombreux, mais pas très consommateurs. C'est comme si on intériorisait totalement que l'Afrique n'avait pas à se développer. Oui, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 5% des émissions de CO2 mondiales, mais est-ce que l'Afrique a vocation à rester pauvre? Est-ce qu'elle n'a pas vocation aussi à se développer, etc., etc. Donc, ces questions se posent, en fait, partout dans le monde. Maintenant, voilà, encore une fois, il faudrait un peu le courage du politique pour ça.
Alors, justement, si on parle de politique, c'est quand même un choix de société. À supposer que votre modèle gagne petit à petit et devienne une véritable tendance, comment est-ce qu'on peut inciter dans une société quand même nataliste comme la nôtre, les couples à ne pas avoir d'enfants? Est-ce que d'abord il faudrait qu'ils n'aient pas du tout d'enfants, ou peut-être pas trop d'enfants? Enfin, où est-ce que vous mettez le curseur?
Alors, je mets absolument aucun curseur. Il y a un think tank britannique qui s'appelait Optimum Population Trust, qui, pendant des années, a tenté de nous donner le bon chiffre. Le bon chiffre à partir duquel on considérait qu'on serait trop nombreux. Voilà, imaginez, il y a un jour, un enfant qui naît, c'est l'enfant de trop. C'est impossible. Vous avez les radicaux qui vont dire la planète est OK à 1 milliard d'individus, elle est OK à 5 milliards d'individus. Même le Dalai Lama s'est prononcé en disant qu'au-delà de 6 milliards d'individus, ça lui semblait un peu compliqué. Bon, on a explosé ces compteurs-là. Personnellement, je n'ai pas de solution. Voilà, mais vous auriez pu aussi vous rapprocher de quelqu'un qui s'appelle Antoine Bueno et qui a écrit « Permis à procréer », qui est un super livre qui
il
pose la question...
Il était sur notre antenne il n'y a pas très longtemps.
Oui, non, mais je veux dire dans l'émission. Bah, en tout cas, voilà, s'il était dans l'antenne, donc voilà, il a pu parler de cette façon nouvelle finalement de regarder le problème, et il a pu développer son idée qui est assez folle, assez révolutionnaire, je trouve, qui est de parler de marché de permis à procréer au niveau mondial, comme il y a des marchés de permis à polluer. Et attendez, un permis à procréer, ça ne veut pas dire qu'on interdit les gens de procréer, de faire des enfants, etc. Mais on encadre un peu le fait de faire des enfants. De la même façon qu'on encadre à mort des parents qui postuleraient
à l'adoption et qu'on n'encadre pas du tout les parents qui soit veulent faire une PMA, les femmes seules, on les encadre pas du tout psychiquement, et de toute façon on n'encadre pas non plus les parents qui font les enfants tout à fait naturellement. Donc il y aurait une sorte d'encadrement, une sorte de voilà, ça ne règle pas le problème mais ça permet de le voir différemment. Et voilà, on intègre dedans tous les paquets sur comment est-ce qu'on va se partager les activités, les retraites, qui va les payer, etc., etc. Faut pas oublier que nous, on a quand même devant nous une sorte de voile qui nous vrille un peu l'avenir. C'est-à-dire quand le démographe Monsieur Véron nous parle de comment va-t-on se partager l'activité, j'ai l'impression qu'il résonne business as usual, c'est-à-dire comme si rien n'allait bouger. Nous rentrons dans les décennies de grandes ruptures, de grandes failles où l'inconnu est de mise. Et donc voilà, c'est ça qui on peut plus trop raisonner comme on l'a fait jusqu'à présent, il me semble.
Vous parliez d'adoption tout à l'heure, on entendait aussi un peu dans le reportage de Véronique. Est-ce que l'adoption, par exemple, c'est une forme de solution pour ceux qui, peut-être, à un moment donné, regretteraient le choix de ne pas avoir eu d'enfant? Enfin, parce qu'on sent bien que ce n'est pas par désamour des enfants qu'on ne fait pas d'enfant, c'est pour d'autres raisons.
Ce serait génial si l'adoption internationale rouvrait un peu ses portes. On sait qu'elles ont été fermées à raison, d'ailleurs, dans le cas de certains abus. Mais on a 163 millions d'orphelins dans le monde, d'après UNICEF. Donc voilà, il y en a certainement un pour moi, un pour des parents qui regretteraient, un pour des personnes un peu plus âgées que nous donnent les limites de l'adoption internationale, etc., etc. Donc oui, l'adoption est une possibilité. Malheureusement, les vannes sont totalement fermées. Mais j'ai voulu adopter, enfin j'ai voulu faire la démarche, si vous voulez, pour voir jusqu'où ça allait. Je vis dans un département qui s'appelle Lyon et j'étais 84e sur la pile. Derrière, m'a-t-on dit, des couples hétéronormés qui, eux, passeraient devant moi.
Voilà. Ça veut dire que c'était donc impossible pour vous, c'est ça? C'était, les délais étaient infranchissables?
Bah oui, moi, je n'ai pas de blanc-seing comme feu Johnny Hallyday, etc., pour adopter dans la minute, quoi, si vous voulez. Donc, forcément, voilà, moi, il fallait que j'attende dans mon coin, sur ma pile. Bon, c'est très bien que ce soit pas passé, mais en tout cas, voilà, l'état, en fait, si vous voulez, pour adopter, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine.
Et vous aviez promis, lors d'en faire un citoyen responsable, pas trop consommateur, parce que c'est, il faut, après, si vous en faites un petit occidental, absolument, pourri, gâté et pollueur, c'est pas bien.
Alors, eh ben, je serais peut-être partie vivre dans son pays d'origine, peut-être le Burkina Faso, qui sait. Non, oui, évidemment. Vous savez, la question du bilan carbone, je trouve que c'est un peu dommage. En fait, on est là avec nos calculettes à carbone, à essayer de carboner la vie des uns et des autres. Mais si tout simplement on pensait en termes de responsabilité intergénérationnelle, de possible, de renoncement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que, enfin voilà, c'est moins problématique que la calculette à carbone.
Norloa, une petite question, une rapide réponse. Vous êtes aussi nourri aux écrits des collapsologues. Et vous pensez vraiment que tout va s'effondrer? Vous êtes convaincu aussi que le système économique, hein, qui exerce une pression insupportable sur la planète, va capoter? Et bientôt, que c'est imminent ou pas?
Vous la voulez très très courte?
Oui.
La réponse est oui. Les conditions de vie sur Terre vont irrémédiablement basculer. On ne sait pas où on va, ni comment, ni quand. On y va.
Ah bah vous étiez voilà. Presque trop courte. On vous avait laissé 10 secondes de plus pour nous raconter voilà, la fin du monde. Non. Merci beaucoup, Norloa, d'avoir accepté d'être l'invité de ce grand reportage. Merci à nos collègues de France Bleu Auxerre d'avoir assuré la liaison. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivaine, que vous êtes réalisatrice aussi. Vous avez écrit notamment les éditions Plomb, Lettre ouverte à celles qui n'ont pas encore d'enfants, que vous avez citées tout à l'heure. On peut trouver toutes ces références sur notre site. C'était donc Ginks, Ne pas faire d'enfants, geste écolo ultime, un grand reportage signé Véronique Reberotte, réalisé par Annie Brault. Merci à toutes les deux et merci à Alex Dang à la technique. Et vous pouvez réécouter cette émission quand vous le souhaitez, bien sûr, sur notre site franceculture.fr.